maintenant, remue-ménage, une histoire à détraquer vos électroménagers. Alda, les célibataires dans le collimateur.
Décidément, rien n'échappe au marché de la publicité. Un jour ou l'autre, tout phénomène de société, comme disent les journalistes, ou tout comportement social, comme je préfère dire moi, passe à la casserole du marketing et devient une marchandise à vendre et à exploiter. Le cas qui m'intéresse aujourd'hui et qui passe à la casserole 7 ans est le célibat. Il s'agit de ceux et de celles qui ne se marient pas et qui vivent seuls. Vous le savez peut-être, pour en être un ou une, les célibataires sont toujours plus nombreux. Un Français sur quatre vit seul et en Suisse, ça doit être plus ou moins la même chose. Toutes sortes de fabricants et de commerçants se sont donc rués dessus. Les célibataires sont entrés dans leur collimateur. On leur propose des restaurants spéciaux, des supermarchés ouverts la nuit, parce que le jour, c'est les femmes mariées, bien sûr, et puis des boutiques discount de tout genre, des marques de congélateurs individuels, des machines à laver individuelles et toutes sortes de produits individuels opposés aux produits familiaux ou de couple entre guillemets. Un service Minitel spécial pour célibataires et surtout des livres, des guides de toutes sortes destinés aux célibataires pour les aider à se débrouiller, pauvres chéris, disons plutôt pour les conformer à un certain modèle de consommation. Dans ces guides, des adresses, des trucs, des combines pour faire des rencontres, bien sûr, pour des questions juridiques, des adresses d'associations d'entraide. Seulement le mois d'octobre passé, il y a trois guides qui sont sortis en français. Voyage au pays des célibataires, le guide du célibat et moi solo. Et en apothéose, du 7 au 11 novembre, se tiendra à Paris le salon des célibataires à l'espace Wagram avec des stands de toutes sortes pour vendre toutes sortes de conseils et de produits. Il n'y a pas que les célibataires transformés en consommateurs ciblés, il y a les célibataires phagocytés par la presse, les célibataires qui deviennent un produit de consommation médiatique, les célibataires qui font vendre votre magazine préféré. En effet, depuis une année environ, on fait de temps en temps, mais régulièrement, la une d'un hebdo à tour de rôle, avec des pseudo-enquêtes, des soi-disant sondages et des articles très édifiants sur les célibataires, notamment les femmes seules. Ça, bien sûr, sur la base de statistiques, cela s'est fait sur la base des statistiques sur la nuptialité qui ont été publiées en France il y a un an environ, si je ne me trompe pas. Le Nouvel Observateur de la semaine passée publiait une enquête sur les femmes seules. Je suis tombée dans le panneau, bien sûr, je l'ai achetée. C'était un article tout simplement scandaleux. Sous une apparence de légèreté et d'humour, on arrive à faire dire, par des coupures savamment dosées dans les interviews, on arrive à faire dire aux femmes interrogées, ces femmes qui ne se marient pas ou qui ont divorcé, que ce qu'elles cherchent, c'est un bon macho qui les fasse frémir, parce que maintenant, en 1987, elles peuvent se le permettre, elles sont égales, elles sont libres. Après ça, je vous conseille quand même toujours de ne pas vous marier et de ne pas partager le même toit avec votre chéri, ne serait-ce que pour éviter de devoir un jour ou l'autre lui faire à manger ou lui faire la lessive. Et oui.
Depuis pas tiens pas qu'à 2 minutes, alors pour moi.
Nous avons été faire un petit tour en Guadeloupe avec le groupe des Aiglons. Et maintenant, c'est Ménage-toi du temps, Catherine.
Aujourd'hui, je vous propose de vous ménager du temps pour lire. Pour les jours déjà tellement gris, pour les longues soirées d'hiver si proches, quoi de meilleur ? Il y a quelques mois, un ami m'a offert un gros livre en m'assurant « Tu verras, c'est fabuleux ». C'était « Le parfum », un roman désormais très connu de Patrick Süskind. J'ai été effectivement complètement séduite par ce roman. Le livre est gros, mais j'aurais bien voulu qu'il le soit deux fois plus. J'espère que les quelques extraits que je vais vous lire pour illustrer mon résumé de l'histoire vous donneront très envie à vous aussi de le lire. Juste quelques mots sur l'auteur. Patrick Süskind est né en 1949 en Allemagne. Il fait des études littéraires à Munich et à Aix-en-Provence. On retrouve d'ailleurs la Provence très fort dans Le Parfum. Et exerce le métier de scénariste. Outre ce premier roman, Le Parfum, il a écrit une pièce de théâtre, La Contrebasse, et a publié tout juste maintenant, en 1987, un nouveau roman, Le Pigeon. Mais tout de suite, ouvrons Le Parfum au chapitre premier. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne moqua pas de génie abominable. C'était son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille, et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie, comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral. Mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. À l'époque où nous parlons, il régna dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrières-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton. Les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière enfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et le remugle âcre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries la puanteur de leur bain corrosif et les abattoirs la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Les bouches puaient les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d'oignon et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les aiguilles puaient, cela puait sous tous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan, la noblesse puait du haut jusqu'en bas, et le roi lui-même puait. Il puait comme un fauve et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce XVIIIe siècle, l'activité des bactéries ne rencontrait aucune limite. Aussi n'y avait-il aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou à son déclin qui ne fût accompagnée de puanteur. Et c'est naturellement à Paris que la puanteur était la plus grande, car Paris était la plus grande ville de France. Or c'est là, à l'endroit le plus puant de tout le royaume, que vit le jour, le 17 juillet 1738, Jean-Baptiste Grenouille. La mère de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue au fer et écaillait des gardons qu'elle venait de vider. Quand les douleurs se précisèrent, elle s'accroupit et accoucha sous son étal, tout comme les quatre autres fois, et trancha avec son couteau à poisson le cordon de ce qui venait d'arriver là. Mais voici qu'à cause de la chaleur et de la puanteur, elle tourna de l'œil, roula sous la table et jusque sous le pavé, restant là, dans la rue, le couteau à la main. On crie, on accourt, les badauds font cercle, on va chercher la police. La chose sous l'étal se met à crier. On va y voir et sous un essaim de mouches, au milieu des entrailles et des têtes de poissons, on découvre le nouveau-né, on le dégage. On le confie d'office à une nourrice, la mère est arrêtée. Et comme elle ne fait aucune difficulté à avouer qu'elle aurait sûrement laissé crever le marmot, comme du reste les quatre précédents, on la traduit en justice, on la condamne pour infanticide réitéré et quelques semaines plus tard, on lui coupe la tête en place de grève. L'enfant va changer de nombreuses fois de nourrice, va être élevé dans une institution religieuse, sera finalement confié à l'âge de 8 ans à un tanneur qui l'utilisera comme tâcheron à bas prix. Les premiers mots qu'il prononce furent « bois »,« poisson » et « table aux chèvres », des mots qui tous désignaient des objets odorants. À 6 ans, il avait totalement exploré olfactivement le monde qui l'entourait. Ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était vagabonder dans les odeurs des faubourgs parisiens. C'est que Jean-Baptiste Grenouille, tout enfant déjà, est lié de façon très étrange au monde de l'odeur. « Il est possédé par le diable, il ne sent absolument rien !» disait une de ses nourrices. Madame Gaillard, qui s'en occupera plus tard, n'en pense pas moins. Imaginez donc, il peut dire combien de pensionnaires sont dans la chambre sans même y pénétrer. Il sait qu'il y a une chenille dans un chou-fleur avant qu'on ait coupé le chou-fleur en deux. Et il retrouve sans hésiter derrière une poutre l'argent que Madame Gaillard y avait si bien caché qu'elle ne savait plus où il était. Sans odeur corporelle, mais doué d'un odorat exceptionnel. Le Parfum, roman de Patrick Suskind, nous raconte l'épopée abominable et incroyable de cet homme, animé d'un désir permanent, fuir loin des hommes, ne plus sentir leurs odeurs hostiles. Son incroyable talent va être exploité par les grands parfumeurs parisiens, puis provençaux. On ne lui en laissera tirer, bien sûr, aucune gloire preuve personnelle. Mais la reconnaissance des hommes n'intéresse pas Grenouille. Après avoir vécu 7 ans recroquevillé dans une caverne au cœur du Cantal pour ne plus sentir les odeurs humaines, il découvre, lui, avec stupéfaction, qu'il ne sent pas. Peu à peu, l'angoisse desserra sa prise et Grenouille commença à se sentir plus en sécurité. Vers midi, il avait retrouvé son sang-froid. Il appliqua l'index et le majeur de sa main gauche sous son nez et aspira ainsi entre les os de ses doigts. Il sentit l'air humide du printemps parfumé d'anémone. Il ne sentait pas ses doigts. Il tourna la main et en renifla le creux. Il en perçut la chaleur, mais ne sentit aucune odeur. Alors il retroussa la manche de sa chemise en haillons et fourra son nez au creux de son bras. Il savait que c'est l'endroit où tous les hommes se sentent eux-mêmes. Lui, pourtant, ne sentit rien. Il ne sentit rien non plus sous son aisselle, sur ses pieds, sur son sexe vers lequel il se pencha autant qu'il put. C'était grotesque. Lui, Grenouille, qui pouvait flairer à des lieux n'importe quel autre être humain, n'était pas capable de sentir l'odeur de son propre sexe distant de moins d'un empan. Il fit tout ce qu'il était possible pour faire flairer sa propre odeur sur ses vêtements. Mais l'odeur n'y était pas. Elle n'y était décidément pas. Il y avait là 1000 autres odeurs. L'odeur de pierre, de sable, de mousse, de résine, de sang de corbeau. Même l'odeur du saucisson qu'il avait acheté voilà des années près de Sully y était encore nettement perceptible. Les vêtements recelaient un journal olfactif des 7 ou 8 dernières années. Il n'y avait qu'une odeur qu'il ne contenait pas. C'était l'odeur de celui qui les avait portés sans cesse pendant tout ce temps. Désormais, toute la vie de Jean-Baptiste Grenouille va tendre vers cet unique but, maîtriser les techniques des parfumeurs pour se fabriquer une odeur humaine, son parfum personnel qui le fera exister parmi les autres. L'atelier et la boutique de Runel étaient loin d'être approvisionnés comme naguère la parfumerie de Baldiné à Paris. Quelques huiles de fleurs, quelques eaux, quelques épices. Un parfumeur moyen n'aurait guère pu en tirer des merveilles. Mais Grenouille flaira d'un coup dès l'entrée que les ingrédients disponibles suffiraient tout à fait pour ce qu'il voulait faire. Il n'entendait pas créer un grand parfum. Il ne voulait pas inventer une combinaison prestigieuse, comme pour Baldini, pour le temps, quelque chose qui émerge de l'océan de la médiocrité et tourne la tête aux gens. Son vrai but n'était même pas une petite eau de fleurs d'oranger, comme il l'avait promis au marquis. Les essences courantes, néroli, eucalyptus et feuilles de cyprès, n'auraient pour fonction que de camoufler la vraie odeur qu'il se proposait de fabriquer, à savoir l'odeur d'être humain. Il voulait même, si ce n'était provisoirement qu'un piètre succès d'année, prendre cette odeur d'humain qu'il ne possédait pas. Certes, il n'y avait pas une odeur d'être humain, pas plus qu'il n'y avait un visage humain. Chaque être humain avait une odeur différente. Nul ne le savait mieux que Grenouille, qui connaissait des milliers et des milliers d'odeurs individuelles et qui, depuis sa naissance, distinguait les gens au flair. Et pourtant, il y avait un thème fondamental de l'odeur humaine et, au demeurant, passablement simpliste. Une base continue, graisseuse et sudatoire, aigrelette comme du fromage et, pour tout dire, assez répugnante, que tous les humains avaient en commun. La plupart des gens ne savaient pas qu'ils avaient une odeur personnelle et du reste, ils faisaient tout pour la dissimuler sous leurs vêtements ou bien sous des senteurs artificielles à la mode. Il n'y avait que cette odeur fondamentale, cette fragrance primitive d'humanité qui leur fut familière. Ils vivaient dedans et s'y sentaient bien à l'abri. Il suffisait d'exhaler cette répugnante odeur universelle pour être reconnu comme l'un des leurs. Pour imiter cette odeur humaine, de façon fort imparfaite, il le savait lui-même, mais assez habilement tout de même pour abuser les autres, Grenouille chercha dans l'atelier de Runel les ingrédients les plus insolites. Derrière le seuil de la porte qui donnait dans la cour, il trouva relativement fraîche encore une crotte de chat. Il en préleva la moitié d'une petite cuillère qu'il mit dans la bouteille à mélanger, en même temps que quelques gouttes de vinaigre et du sel fin. Sous la paillasse du laboratoire, il découvrit une miette de fromage, grosse comme l'ongle du pouce et provenant manifestement d'un casse-croûte de Grunelle. Elle était déjà assez ancienne et commençait à se décomposer et dégager une odeur aigre et forte. Sur le couvercle d'un cac de sardines qui se trouvait dans l'arrière-boutique, il détacha une raclure indéfinissable, sentant le poisson rance, qu'il mélangea avec de l'œuf pourri, de l'ammoniac, de la muscade. Il étendit d'alcool ces horribles composants, laissa reposer et filtra une seconde bouteille. Cette mixture avait une odeur épouvantable. Elle puait comme un égout, comme une charogne. Et lorsque diluait ses effluves d'un coup d'éventail avec un peu d'air pur, on se croyait à Paris. Là où se rencontraient les odeurs des Halles, du cimetière des Innocents et des immeubles surpeuplés. Sur cette base affreuse, qui ne sentait de fait moins l'homme que le cadavre, Grenouille mit une couche de senteur d'huile fraîche, menthe poivrée, lavande, térébenthine, citron vert, eucalyptus. Une fois étendu de nouveau avec de l'alcool et une pointe de vinaigre, ce mélange avait perdu l'odeur répugnante qui en était la base. Grâce à la fraîcheur des ingrédients ainsi rajoutés, la puanteur latente s'était perdue jusqu'à être imperceptible. Le parfum des fleurs avait enjolivé l'exhalaison fétide, la rendant quasi intéressante. Et curieusement, plus rien ne rappelait l'odeur de décomposition. Au contraire, le parfum paraissait dégager une allègre et vigoureuse senteur de vie. Après avoir rempli deux autres flacons de ce parfum, Grenouille se déshabilla entièrement et aspergea ses vêtements. Puis il s'en humecta les aisselles, s'en mit entre les orteils, sur le sexe, sur la poitrine, dans le cou, derrière les oreilles et dans les cheveux, se rhabilla et quitta l'atelier. Grenouille est convaincu qu'il est capable de créer un parfum non seulement humain, mais surhumain. Celui qui le respirera en sera ensorcelé et ne pourra pas ne pas aimer du fond du cœur Grenouille qui le portera. Oui, il faudrait qu'ils l'aiment lorsqu'ils seront sous le charme de son parfum. Non seulement qu'ils l'acceptent comme l'un des leurs, mais qu'ils l'aiment jusqu'à la folie, jusqu'au sacrifice de soi, qu'ils frémissent de ravissement, qu'ils crient, qu'ils pleurent de volupté sans savoir pourquoi. Il faudrait qu'ils tombent à genoux comme à l'odeur de l'encens froid de Dieu, dès qu'ils le sentiraient, lui, Grenouille. Il entendait être le Dieu tout-puissant du parfum, comme il l'avait été dans ses rêveries, mais que cette toute-puissance s'exerce dorénavant dans le monde réel et ses deux êtres humains réels. Et il savait que cela était en son pouvoir, car les hommes pouvaient fermer les yeux devant la grandeur, devant l'horreur, devant la beauté, mais ils ne pouvaient pas prêter l'oreille à des mélodies ou à des paroles enjôleuses. Mais ils ne pouvaient se soustraire à l'odeur, car l'odeur était sœur de la respiration. Elle pénétrait dans les hommes en même temps que celle-ci. Ils ne pouvaient se défendre d'elle s'ils voulaient vivre. Et l'odeur pénétrait directement en eux jusqu'à leur cœur. Elle y décidait catégoriquement de l'inclination et du mépris, du dégoût et du désir, de l'amour et de la haine. Qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. J'espère que ces quelques extraits du roman de Patrick Zuskind vous auront donné envie de courir à la librairie. J'ai eu, quant à moi, envie de parler de Patrick Zuskind avec Michel Kuhlmann, comédien genevois, qui a créé magnifiquement en septembre dernier, dans le cadre du Festival de la Bâtie, la pièce de théâtre à un personnage, écrite par Zuskind, La Contrebasse. Après avoir lu Le Parfum, j'attendais avec beaucoup d'impatience La Contrebasse et je n'ai pas été déçue. J'ai d'abord demandé à Michel Kuhlmann ce qu'il aimait dans les œuvres de Patrick Zuskind.
Disons, dans la façon qu'il a plutôt de choisir ses personnages, je crois qu'il y a vraiment autant dans Le Parfum que dans Le Pigeon, que dans La Contrebasse. Il prend des personnages qui sont dans le fond des êtres qu'on peut côtoyer tous les jours, mais qui sont... des êtres exceptionnels malgré tout, quoi. Et qui, sous des aspects, surtout dans Le Pigeon et dans La Contrebasse, évidemment, sous, sous un aspect spectaculaire, extérieur, comme ça, évident, sous un uniforme qui a l'air d'être une carapace sociale, comme ça, très forte, ben, c'est complètement lézardé à l'intérieur.
Moi, ce qui me frappe quand j'ai lu le parfum d'abord, puis ensuite quand j'ai écouté la contrebasse, c'est de voir à quel point il connaît bien ses sujets. Il passe de la musique au parfum, j'imagine. Le pigeon, de quoi ? C'est insensé.
Ah oui, le pigeon aussi, c'est extrêmement documenté. Mais ça, c'est une...
Ça parle de quoi, le pigeon ?
Le pigeon, ça parle d'un personnage qui est vigile, c'est-à-dire un policier civil, mais en uniforme. C'est gens qu'on ne voit pas tellement chez nous en Suisse, mais surtout en France, devant les banques.
Ah oui, voilà.
Qui ont donc une casquette un peu à l'américaine, qui ont un uniforme, un revolver au côté, puis qui sont là un peu pour garder la banque, c'est un bien grand mot, quoi, pour faire peur aux éventuels voleurs. Et donc c'est un personnage qui a toute une allure sociale et toute une allure très respectable, comme la contrebasse, si tu veux, le type qui est en smoking, qui travaille en uniforme, un uniforme très respecté, très respectable, et qui, à l'intérieur, vraiment, est un personnage complètement torturé, désespéré, minable. Et dans tous ces personnages-là, on retrouve les mêmes obsessions, l'obsession de la caverne, de la petite chambre.
Voilà, tout à fait.
Le personnage de la contrebasse s'enferme dans sa chambre insonorisée, parce que tout le monde extérieur est toujours, malgré tout, une agression.
Une menace, quoi. Ouais.
Une menace. Mmh. Dans le parfum, pendant 7 ans, il vit dans sa caverne. Il se fait de plus en plus petit, de plus en plus, pour essayer d'échapper au monde. Et finalement, il n'y arrive pas. Mais le monde les bouffe, d'ailleurs, dans le parfum, il les bouffe littéralement.
Ah, tout à fait.
Donc, il y a vraiment, alors, entre ces trois œuvres-là, moi, je n'en connais pas d'autres pour l'instant, vraiment, alors, des parallèles très, très nets. Mmh. Maintenant, du point de vue de l'écriture, on voit bien que c'est une école allemande. On voit vraiment que c'est une école hyper documentée et que sur chaque sujet, on a l'impression que Süskind l'a vécu lui-même de l'intérieur. Et ça, c'est toute une écriture, c'est toute une école, disons, de gens qui, avant de se mettre à délirer ou à faire marcher le génie, ont un travail de documentation énorme, quoi.
C'est ça, on a l'impression que c'est ça qui lui permet de délirer, parce qu'il connaît tellement bien l'histoire qu'à partir de là, il peut utiliser comme il veut, quoi.
Absolument, absolument. L'improvisation ne fonctionne qu'à partir d'une chose extrêmement connue, quoi, tu vois, extrêmement documentée. Et ça, c'est très beau, parce que dans la contrebasse, combien de personnes sont venues me demander alors il est contrebassiste lui-même et vous-même, est-ce que vous êtes contrebassiste? Parce que le degré de vérité, dans le fond, est tel qu'on a l'impression qu'on a vraiment affaire à un type qui a fait beaucoup de contrebasse. On a, dans le parfum, l'impression d'avoir affaire à un type qui connaît parfaitement le problème de...
Toutes les techniques
des parfumeurs. Moi, j'avais personnellement rencontré un type qui était senteur dans une boîte ici à Genève. Et qui parlait de son métier, c'était de façon assez extraordinaire, avec ses petites fioles. Et j'ai retrouvé dans lisant le parfum, des impressions de ces discussions-là, parce que c'était vraiment extrêmement documenté. Et puis dans le pigeon, là aussi, le personnage vit à Paris et on décrit beaucoup les trajets qu'il fait de son travail à son appartement, et on voit qu'il a vécu chaque pierre de ce trajet. Et quand on connaît un peu les rues qu'il décrit, c'est vraiment de la grande enquête minutieuse, quoi, scientifique.
Tu sais pourquoi Süskind parle toujours de lieux qui ne sont pas en Allemagne ?
Parce qu'il aime beaucoup la France.
Ah, uniquement pour ça.
Il vit en France la plupart du temps.
Ah bon, d'accord.
Mais je crois que c'est intéressant pour nous autres Suisses, disons, parce que c'est un Allemand qui vit de culture française, mais qui est complètement imprégné évidemment de sa culture allemande. Il n'y a qu'à voir dans la contrebasse, tous les Allemands baignent quand même soit avec Goethe, soit avec Mozart depuis leur tendre enfance, et ça se sent.
Oui.
Mais en même temps, il y a toute une sensibilité, une façon peut-être aussi un peu analytique d'être français. Et je trouve que pour les Suisses romands, c'est intéressant ça, parce que nous aussi on a un peu de ça. On sait quand même tous un peu d'allemand, on a plus ou moins dû se taper des leçons sur Goethe ou sur la littérature allemande. Et puis, d'un autre côté, on est complètement français, francophone. Donc, je trouve que chez nous, ça résonne particulièrement bien.
Pour un comédien, parler la langue de Ziskin dans le texte de la contrebasse, c'est passionnant, c'est des mots intéressants, c'est des dialogues fantastiques, des monologues fantastiques.
Et ben là, je voudrais vraiment tirer un immense coup de chapeau au traducteur Bernard Lortolari, qui est le traducteur d'ailleurs du Parfum aussi en français, mm-hmm. Et du Pigeon, qui est le traducteur officiel, dans le fond, de Ziskin, parce qu'il a fait un travail vraiment superbe. Quand on lit le texte allemand, pour ceux qui le connaissent un peu, il y a une écriture un petit peu particulière que je trouve que Lortolari a particulièrement bien rendue en français. Et là, quand on est obligé, je crois, on n'en parle pas assez souvent des traducteurs, là, il a fait un travail vraiment, vraiment de très grande sensibilité, de très grande finesse, de délicatesse aussi. Il n'y a pas de grossièreté, comme d'ailleurs dans le texte allemand, il n'y a pas de grossièreté. C'est toujours, c'est jamais vulgaire, et je trouve que là, le traducteur a fait un magnifique travail. Quoi.
Merci Michel Kuhlmann, et merci de nous avoir fait découvrir Le Pigeon, le dernier roman de Patrick Ziskin, dont j'ignorais la parution. Alors, quant à vous, vous avez le choix, Le Parfum, Le Pigeon ou La Contrebasse, trois mondes incroyables de vérité où nous entraîne Patrick Ziskind. Je vous souhaite une bonne lecture et dites-nous ce que vous nous en avez pensé.
Mãe falou, ruim pra diabo.
Rapaz falou, até que é bom.